sa future entreprise, l'ajoutons à pile ou face, à salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence ? Chronique de Talents Bleus ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe Bluesoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulémata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des 1000 visages de Bluesoft. Épisode 1, Marlène, responsable recrutement et formation du pôle digital Bluesoft.
Bon, allez, je me lance alors. Oh.
Marlène est responsable du recrutement de la Digital Factory Bluesoft depuis plus de 6 ans. Son cheval de bataille, la recherche effrénée de profils techniques, ingénieurs d'études et développement front-end, back-end ou full-stack, product owner, scrum master et coach agile sont autant de profils qu'elle recherche pour étoffer les rangs des centres de services du groupe. Marlène n'ignore rien des métiers de l'IT. Après avoir fait ses armes dans la finance de marché et recruté des maîtres d'ouvrage avec une forte appétence pour la gestion des systèmes d'information, elle décide d'élargir son champ d'action et de se frotter à une IT plus moderne et plus ouverte.
Disons que la finance de marché reste un secteur un peu fermé où voilà, il n'y a pas d'évolution trop possible en termes de technologie parce que ça demanderait trop de chamboulement dans les systèmes des clients. On touche quand même à la finance. Et donc, du coup, j'avais envie d'aller sur un secteur où il y avait un peu plus d'ouverture, déjà sur les profils et sur les technologies. Et c'est comme ça que je suis tombée chez Bluesoft.
C'est lors de son premier stage que Marlène s'est découvert une réelle vocation pour le recrutement.
Après mon bac, j'ai fait un DUT carrière juridique, hein, puisque je suis quelqu'un de très rigoureuse et sérieuse. Et je me suis dit que le droit me servirait dans tout, ce qui est le cas. Et puis par la suite, j'ai finalement choisi de faire une licence pro en ressources humaines, donc avec un premier stage et un premier stage en recrutement. Et c'est vraiment ce qui a aujourd'hui presque un peu conditionné le reste de ma carrière, petite, mais début de ma carrière en tout cas. Et puis lors de ce stage, mon maître de stage m'a absolument convaincue de continuer en master en alternance. C'est la seule condition pour que je continue les études puisque j'étais très attachée à ce côté professionnalisant. J'avais absolument besoin de travailler ou du moins de mettre en pratique ce que j'apprenais. Et donc j'ai continué en master manager des ressources humaines pendant 2 ans. J'ai fait une première alternance au sein d'une ESN lyonnaise et ma deuxième alternance au sein du groupe Keolis à Lyon qui gère les transports en commun lyonnais. Et puis par la suite, j'ai déménagé à Paris et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez VR Conseil, donc le cabinet de conseil en finance de marché.
Ainsi, Marlène recrute. Mais ses missions la conduisent aussi à opérer le suivi des collaborateurs depuis leur premier pas chez Bluesoft. Elle conseille également son département sur la politique de recrutement mise en œuvre et sur les outils d'analyse et de suivi des performances. Entre l'animation de la cooptation, la communication RH et la marque employeur, Marlène assure en outre le suivi des formations.
Dans le cadre de la formation, on fait passer des certifications et des formations à nos collaborateurs. Dans ce sens, je dois solliciter des organismes, créer des partenariats, leur trouver des formations et puis réaliser, on va dire, toute la partie administrative d'inscription des collaborateurs à ces formations ou certifications.
Les métiers de l'IT sont en constante évolution. C'est pourquoi si Bluesoft dispose d'un plan de formation préétabli, celui-ci reste souple et sait s'adapter au fil de l'eau, en fonction des besoins des collaborateurs et de ceux des entreprises clientes.
Donc même s'il y a un budget qui est fixé, c'est pas toujours certain qu'il soit tenu et on est prêt de toute façon à l'accepter puisque voilà, c'est pour c'est du gagnant-gagnant et pour nos collaborateurs et pour nous d'avoir des gens qui sont toujours formés entre guillemets au niveau et qui plus est certifiés.
Bluesoft multiplie les projets avec des clients convaincus par le numérique et désireux d'avancer vite et bien. C'est pourquoi aujourd'hui, il s'agit aussi d'étoffer l'équipe de recruteurs. Et le besoin est significatif.
En début d'année, où vraiment la Digital Factory a, a vu naître, entre guillemets, tout un panel de nouvelles offres qu'elle propose aux clients. Et l'idée, c'était que moi, j'intervienne en tant que responsable recrutement pour gérer justement le recrutement des profils qui vont intervenir sur les offres et le travail qu'on vend à nos clients. Et j'étais toute seule. Donc du coup, comme il y a un travail assez colossal de recrutement, les ambitions sont importantes, mais on va y arriver. J'ai dû essayer de créer une équipe. Alors je prends mon temps par contre, puisque le recrutement dans l'IT n'est pas un métier facile, et je ne suis pas dans l'idée de dire que tout le monde peut faire du recrutement, surtout dans notre domaine. Donc il a fallu chercher des personnes qui pouvaient s'inscrire un petit peu dans notre manière de penser, dans notre manière de recruter. Donc là, j'ai une personne qui est chargée de recrutement pour la Digital Factory, mais dans notre centre de service de Rouen, puisque aujourd'hui, la Digital Factory est présente, on va dire, pour l'instant, dans trois villes, qui sont Paris, Rouen et Lyon. L'idée, c'est d'avoir peut-être une personne en alternance avec moi à Paris. À terme, peut-être une sur Rouen. Et si on y arrive très très bien, pourquoi pas à Lyon.
Recruter et recruter dans l'IT, ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si la pénurie de collaborateurs frappe aujourd'hui tous les secteurs d'activité, les ESN connaissent cette situation depuis de nombreuses années déjà. La concurrence est rude, le marché est tendu. On ne se le cache pas, c'est une stratégie de chasse aux talents que Marlène conduit. Ce qui suppose pour le recruteur des savoirs particuliers.
On doit sans cesse être attractif, se démarquer. Et au-delà de ça, je reste persuadée qu'un recruteur IT doit tout de même avoir une fibre technique. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on rencontre des développeurs, des scrum masters, des product owners, nous ne faisons pas leur métier, c'est certain, et nous n'aurons jamais les compétences pour le faire. Mais c'est quand même quelque chose qui doit nous parler. On doit comprendre aujourd'hui dans quel cadre ils travaillent pour aussi arriver à déceler peut-être les candidats les meilleurs quoi. Moi, je trouve que ce qui est important dans le métier de recruteur IT, c'est qu'il faut avoir un profil un petit peu de vendeur commercial, mais surtout de learner. Il faut jamais, jamais, jamais rester sur ses acquis. Il faut toujours avoir envie d'apprendre. Il y a toujours à apprendre. Il n'y a pas de métier de recrutement IT où c'est redondant. Oui, la recherche des candidats, ça peut être redondant, ça peut être chronophage, mais il faut toujours, toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça.
Ex-alternante elle-même, les souvenirs que Marlène conserve de ses premières expériences professionnelles ont forgé une part de sa pratique d'aujourd'hui.
C'est pas si vieux que ça, en plus, sur l'alternance, ça c'était il n'y a pas 20 ans encore. Aujourd'hui, lorsqu'on recrute un alternant, je dirais qu'on... Moi, le point d'honneur que je mets, c'est vraiment à bien les intégrer. Déjà, à bien les intégrer, les impliquer dans tout ce qu'on fait, pour pas qu'ils soient... cantonnés à certaines tâches et qu'ils aient l'impression en fait d'être bridés dans leurs tâches, dans leur mission. L'idée, c'est vraiment de les intégrer comme un salarié lambda, de leur confier des tâches intéressantes, et c'est aussi ce qui conduira à les faire gagner en autonomie et qu'ils soient très performants finalement, puisque nous, quand on prend des alternants, certes un alternant est un apprenant. Mais après, il peut très bien performer aussi bien que quelqu'un qui serait en CDI chez nous.
Les témoignages d'alternants qui sont jetés dans le grand bain professionnel sans réel tutorat et sans accompagnement sont légion. Il appartient pourtant à l'entreprise d'organiser la formation de terrain de ces alternants qui ne sont pas et ne seront jamais de la simple main-d'œuvre bon marché, mais des professionnels en devenir à qui l'on doit, dès lors qu'on les recrute, un accompagnement. Et tout commence par le soin qu'on prend à identifier les collaborateurs seniors qui ont une fibre pédagogue.
On ne choisit pas telle ou telle personne juste pour être tuteur. L'idée, c'est que le tuteur ait son vrai rôle à tenir, que ça soit en termes de suivi, d'accompagnement. Et puis, bien souvent, les tuteurs sont accompagnés par des personnes qui vont être chez nous depuis un certain nombre d'années, qui ont une certaine expertise. Ces personnes n'auront pas le rôle de tuteur, mais vont être un petit peu encadrants ou vont donner un petit peu des tâches à ces alternants. parce que les tuteurs sont souvent aussi très très occupés, parce que c'est souvent des managers. Mais il y a toujours des relais en fait au sein des équipes. Ils sont jamais laissés tout seuls.
Et le système fonctionne car les équipes sont demandeuses.
On avait initialement par exemple prévu pour l'agence de Rouen 3 alternants et finalement là on en est à en prendre un cinquième parce que aussi on a eu la chance de recruter des alternants qui sont vraiment géniaux et qui correspondent totalement à la personnalité de nos agences et qui du coup nous ont partagé des profils d'autres alternants qui sont des fois dans leur promo et qui n'ont pas encore trouvé forcément d'alternance, mais avec qui, soit ils s'entendent bien, soit ils disent « je le verrai bien travailler avec moi ». Et on n'est pas du tout fermé, voilà. Même si on avait décidé qu'on n'en prenait que 3, on s'est dit « ok, on va les rencontrer ». Et puis il y a ce côté feeling, ce côté où ça match, et on se dit « on va les prendre quand même ». Et de toute façon, on fera tout pour les intégrer au mieux.
Parfois, la configuration des locaux joue dans la réussite d'une intégration. Que ce soit à Charenton, à Lyon ou à Rouen, les bureaux de Marlène sont situés au même étage que ceux des équipes techniques. Un détail ? Pas tout à fait.
Donc tout le temps, on se voit. Je vais à leur rencontre, on partage des cafés ensemble, on déjeune parfois ensemble. Il n'y a pas de barrière, en fait, entre nous. L'avantage d'être au cœur de ces équipes, c'est effectivement de gagner du lien aussi.
Le fameux lien, celui que toutes les entreprises conscientes des attentes au travail cherchent à cultiver, Marlène le connaît bien. Ses ingénieurs sont régulièrement sollicités, pour ne pas dire appâtés par d'alléchantes offres financières. Est-ce à dire que la loi de l'offre et de la demande se résume au salaire ? Ce n'est pas ce qui ressort des discussions, nombreuses, que Marlène a avec les équipes. La variété et la qualité des missions confiées sont très importantes, mais également, et peut-être surtout, les relations, la présence, l'écoute et l'attention.
Aujourd'hui, même si on a beaucoup de télétravail, les collègues restent importants. Et quand on a une entreprise qui crée des choses, des événements pour essayer de rassembler ses collaborateurs, même s'il y a du télétravail, c'est très important. Je prends par exemple, on a fait une semaine pour la qualité de vie au travail et le bien-être, où il y avait tout un tas d'ateliers, il y avait de la sophro, de la sensibilisation à l'écoute active pour les managers, tout un tas d'ateliers de ce type qui peuvent à la fois servir dans le contexte pro, mais dans le contexte personnel. Et ça a été aussi l'occasion pour nos collaborateurs de se voir, de voir des collaborateurs de Lyon, de Rouen, de Niort, de Suisse aussi. Et c'est vrai que aujourd'hui, il faut se rendre compte que les collaborateurs n'attendent pas juste une opportunité professionnelle en termes de mission, de poste. Il y a un tout. Il y a l'ambiance de travail. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on essaie aussi de mettre en avant, entre guillemets, dans notre discours. Quand on aborde les candidats, on explique avant tout le contexte des équipes en place. Ça va du discours que j'ai au téléphone comme dans les annonces que j'écris. Dans les annonces que j'écris, j'ai toujours une partie où j'explique votre futur environnement, le contexte des équipes dans lesquelles ils vont intervenir.
À propos de contexte, l'organisation du groupe Bluesoft est un peu particulière. Elle repose en grande partie sur une croissance externe. La réussite des intégrations successives de petites sociétés au sein du groupe témoigne en faveur de l'attention portée aux collaborateurs. À ce jour, Bluesoft dispose d'agences décentralisées dans de nombreuses villes en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Marlène, elle, y voit surtout un atout.
Même si je suis rattachée à l'agence de Charenton, je recrute pour partout. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Le télétravail a permis d'avoir accès à des profils un peu plus lointains en termes de géographie. On a des collaborateurs qui habitent toute l'année à Marseille, d'autres à Strasbourg, et qui ne se rendent dans les locaux que deux fois par semaine.
Il fait manifestement bon travailler au recrutement pour Bluesoft. Pour autant, c'est un métier difficile qui n'est pas épargné, ni par certains jugements à l'emporte-pièce, ni par une conjoncture incertaine. Cela vous surprendra peut-être, mais les candidats ne sont pas les seuls à déplorer parfois le manque d'attention des entreprises pour leur candidature.
En tant que recruteur, on nous met dans des cases. On nous met dans des cases, donc les candidats forcément ne prennent pas toujours la peine de nous répondre ou nous prennent un petit peu pour des personnes qui n'y connaissent rien et ou du moins ne s'y intéressent pas. Et c'est d'ailleurs des fois en entretien ce qui fait un petit peu changer la donne et changer l'attitude des candidats, c'est quand ils voient notre manière de s'adresser à eux, d'aller aussi un petit peu parfois sur la technique ou même quand ils me racontent leur parcours, je vois bien que des fois ils essayent d'aller sur des trucs un peu spécifiques et ils voient que finalement je réponds en posant davantage de questions et on gagne en fait en crédibilité. Et puis après, au sein même de l'entreprise. Dans une ESN, il y a plusieurs acteurs et le recrutement ne peut pas travailler tout seul. C'est comme dans une équipe de foot. Il y a le commerce, il y a les dirigeants, il y a le recrutement, il y a l'administratif, les ressources humaines, il y a tout le monde. Et tout le monde doit travailler ensemble pour atteindre le même objectif.
Ni penser que les moyens donnés sont insuffisants.
On donne jamais les moyens suffisants. Non, aujourd'hui, on pourrait toujours avoir mieux. On n'est pas les moins bien lotis, mais aujourd'hui, on pourrait toujours avoir mieux. C'est surtout aujourd'hui la conjoncture, le marché qui est de plus en plus difficile. On aurait beau avoir tous les outils du monde, je ne suis pas certaine qu'on pourrait faire mieux. C'est pas l'outil qui fait le travail. Je dirais que dans notre métier, on a effectivement des objectifs de recrutement. On est toujours en quête de talent, de mettre en place des choses pour s'améliorer. Mais c'est bien de faire tout ça sans oublier l'humain et que notre métier, même si aujourd'hui on va aborder les manières de, enfin les personnes de la même manière un petit peu, il faudra toujours faire du cas par cas. Et ça, faut jamais l'oublier. Les personnes sont toutes différentes. On peut être amené à rencontrer des personnes en entretien qui vont être très à l'aise et l'entretien va très très bien se passer. Des personnes qui vont être complètement bloquées et l'idée c'est pas de se dire il a pas été capable de déblatérer un mot donc non. L'idée c'est vraiment de faire du cas par cas. On gère de l'humain, c'est incertain. Et on peut toujours trouver des solutions d'accompagnement. Et c'est pas parce que les gens ils sont rentrés chez nous qu'il faut délaisser ça. C'est pas parce que j'ai eu un recrutement qui a été réalisé qu'il faut que, allez hop, je passe à autre chose. Non, il faut faire fructifier tout ça, l'entretenir. C'est comme une fleur qu'on arrose.
Bluesoft est un groupe discret. Se faire connaître plus et mieux encore pour accélérer le recrutement devient alors pour Marlène une certaine idée fixe. Au-delà, savoir remettre en question ses méthodes et continuer de se former reste des clés majeures du métier.
Alors, un des premiers, parce qu'il y en a plusieurs, un des premiers leviers, je dirais, c'est de créer des annonces et des fiches de poste, j'ai envie de dire attractives, mais qui reflètent surtout la réalité de l'activité aujourd'hui qu'on a chez Bluesoft. J'avais vraiment envie de parler de l'ambiance, du contexte, des équipes qu'il y a et qui règnent, surtout sur les centres de service. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on dépoussière un petit peu tout ça. Plutôt que d'avoir des vraies fiches de poste classiques, présentations de l'entreprise, etc., il fallait vraiment parler presque avec le cœur, j'ai envie de dire. Mais surtout dire, aujourd'hui ça se passe comme ça, est-ce que vous avez envie de tester ? L'autre levier, c'était aussi moi dans mon métier de renouveler un petit peu mes méthodes de contact, de chasse. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire la formation dispensée par l'école du recrutement, qui elle aussi m'a permis de dépoussiérer mes méthodes, très très formatrice et tant dans l'approche des candidats, comment aussi changer son process de recrutement pour le rendre plus simple et plus pertinent finalement que des process avec je ne sais combien d'entretiens. Donc c'est tout finalement un petit peu la méthodologie de mon travail qui a été un petit peu changée et revue pour essayer de faire ça court, concis, mais précis. Et puis, le dernier levier qui marche très, très, très bien depuis le début d'année, c'est la cooptation. Effectivement, quand on chérit nos collaborateurs, qu'on les accompagne et qu'ils sont contents, ils se disent j'ai un ami qui cherche dans ce domaine-là, pourquoi pas le faire entrer chez Bluesoft. Et il se trouve que depuis le début d'année, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de cooptations et qui ont abouti sur des CDI. On a, je dirais, pas vraiment une politique de cooptation qui est très, très, très attractive. Donc, c'est ce qui montre aussi que les gens cooptent parce qu'ils se sentent bien. Et ça fait plaisir.
Et la direction dans tout ça? Il suffit d'écouter Marlène quelques minutes pour comprendre à quel point elle bénéficie d'une grande autonomie d'action et de décision dans son métier, corrélée à beaucoup d'écoute, de confiance et d'empathie. Aujourd'hui, responsable du recrutement au sein de la BU Digital Factory de Bluesoft, c'est avec son directeur que Marlène collabore étroitement.
Bah ça, c'est aussi le fait d'être ici depuis finalement 6 ans, c'est que, comme souvent certains le disent, je fais partie des murs. Et donc du coup, je connais pas mal de monde. Il y a eu aussi le fait que je m'entends très bien avec les responsables des centres de services, hein, que ça soit Paris, Rouen ou Lyon. Ils ont eux aussi finalement très bien compris de l'importance du recrutement pour leurs équipes et savent très bien se dégager du temps pour m'accompagner lors des rendez-vous, puisque moi je tiens à faire tous les rendez-vous, tous les entretiens en binôme. Il n'y a pas de scission en fait entre un rendez-vous RH et un rendez-vous avec les responsables opérationnels. On fait tout ensemble.
Une erreur de casting, on le sait, peut coûter cher. La peur de se tromper, cela dit, est aussi une boussole et permet de conduire un entretien sans omettre d'aborder les qualités humaines que l'on recherche.
Évidemment, c'est le jour où j'aurai plus peur de me tromper qu'il faudra que je m'inquiète. Non, évidemment qu'on a peur de se tromper puisque, encore une fois, on embauche des personnes qui sont très techniques. Donc, on n'a pas les compétences pour savoir si la personne est en train de nous berner ou pas. Donc, c'est important de rester quand même sur les valeurs, la personnalité, le charisme, le leadership, tout ce que nous, on peut arriver à évaluer de par les questions qu'on va poser, de par la manière dont s'exprime la personne, les expériences, son évolution. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire les entretiens avec les techniques, pour voir un petit peu comment ils réagissent quand ils ont l'échange avec les techniques, parce que c'est là aussi que des fois, on arrive à déceler s'il y a quelque chose qui nous gêne, ou au contraire, si on voit que c'est vraiment... quelqu'un de très très bien. Donc on a toujours un petit doute, mais je dirais que par contre, quand on voit des très très bons candidats, on le sait tout de suite.
Si la jeunesse contribue à la dynamique des équipes, l'expérience des seniors n'en demeure pas moins le graal de tout recruteur. Précieux et prisé, l'expert IT senior relève d'une catégorie de collaborateurs qui en a vu d'autres et qui peut ressentir le besoin de se renouveler, de travailler autrement et éventuellement de se diriger vers des technologies qui ne lui étaient pas accessibles dans les conditions de travail qu'il connaissait jusque-là.
Aujourd'hui, c'est sûr, on n'aborde pas des juniors ou des confirmés comme on aborderait des seniors. C'est indéniable. C'est une population qui est plus difficile à atteindre. Déjà, c'est pas forcément des personnes qui sont en recherche d'emploi. Il faut arriver à susciter l'intérêt davantage chez les personnes confirmées. L'idée, c'est justement d'avoir un discours qui est peut-être un petit peu plus, je dirais, droit au but. Aujourd'hui, c'est pas en ayant tout un discours travaillé ou des fois on brode qui va intéresser. Ces personnes-là, souvent, elles ont déjà 10 ou 15 ans derrière elles dans des ESN. C'est plutôt de leur expliquer comment... Chez nous, chez Bluesoft, on travaille. Comment nos projets sont valorisés chez le client, nos méthodologies. Et l'avantage de la Digital Factory, c'est que on n'intervient pas sur des projets chez les clients, où du coup le collaborateur est complètement dédié dans les locaux et dans les équipes. On est vraiment sur un pôle où il y a une diversité de compétences et de talents. C'est du multi-projet. Donc, c'est varié et c'est multi-techno. Donc, c'est encore plus varié. Et c'est ça, bien souvent, qui fait mouche, comme tu le disais. C'est ça qui fait, moi, je suis pas habituée, effectivement, à travailler dans un centre de service. Je suis plutôt habituée à aller en mission pendant 2 ou 3 ans chez un client. Et souvent, les projets chez les clients, c'est pas que c'est redondant, mais ils sont cantonnés à une certaine tâche sur un projet, surtout quand c'est des prestataires qui sont extérieurs et qui ne sont pas internes. Donc là, le mode centre de service est clairement un atout dans mon discours.
Reste enfin que le secret de Marlène, si secret il doit y avoir, pour faire face à la concurrence, garder ses développeurs et en trouver de nouveaux, demeure dans un subtil mélange d'authenticité et de chaleur humaine.
Quand j'essaye d'insuffler aux candidats notre manière de travailler, les projets sur lesquels on intervient, c'est aussi pour ça qu'on fait des témoignages clients pour arriver à donner accès aux candidats en fait un petit peu à ce qu'on fait sans qu'on ait forcément réussi à les démarcher. Évidemment qu'on partage les témoignages clients parce que certes les témoignages collaborateurs ça les intéresse, mais des fois ça peut être un petit peu enjolivé, ce genre de choses, alors que un témoignage client, non, ça va être du sincère et ça va être vraiment sur le concret de ce qu'on fait chez eux. Et aujourd'hui, voilà, faut être dans le vrai. Il faut arrêter ce qu'on appelle la langue de bois. Ça ne mène à rien. Il faut vraiment dire comment les choses se passent chez nous. Et honnêtement, faut attirer de la sympathie. Moi, je sais que j'essaie d'être moi-même. Je ne me donne pas un rôle. Et quand je vais au contact des collaborateurs, c'est parce que j'en ai envie.
De manière générale, les entreprises ont des objectifs d'embauche de personnes en situation de handicap. Et de nombreux clients de Bluesoft également veillent à maintenir leur représentation lors des prestations délivrées. Ce n'est pas toujours facile pour Marlène, mais cela ne tient pas nécessairement au niveau de formation de ce public.
Effectivement, j'entends très régulièrement, d'ailleurs dans la formation qu'on est en train de nous dispenser, ils le disent que souvent les personnes en situation de handicap sont des personnes qui sont moins bien formées parce que voilà, c'est des personnes qui ont été touchées par l'handicap à un moment donné et qui n'ont pas pu étudier. Eh bien moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, puisqu'au contraire, je trouve que la situation de handicap peut arriver à tout moment dans une vie et peut-être même après les études où un handicap peut être aussi généré par la suite par les situations qu'on vit dans le quotidien, le stress, les burn-out, les accidents de travail, les accidents de la vie, tout ça peut faire que des personnes après ne seront plus à 100%, je dirais, de leur capacité. Et du coup, je suis pas très d'accord avec cette idée. Pour ma part, je suis en situation de handicap et j'ai un bac plus 5. C'est souvent difficile, par contre, effectivement, de recruter des personnes qui sont en situation de handicap, non pas parce qu'elles sont en situation de handicap, mais parce qu'on ne le sait pas. Ce n'est pas clairement indiqué. Il y a aujourd'hui des sites d'emploi qui sont dédiés aux personnes, en tout cas, qui sont bénéficiaires souvent d'une RQTH. Là, oui, effectivement, on le sait. Mais par contre, si la personne fait le choix de ne pas le dire ou ne pas le mentionner, on ne le saura pas. Donc, il y a quand même aussi aujourd'hui, je dirais, un tabou autour de ce type de situation. Et c'est pas tout le monde qui parle de ça à RQTH de manière simple en fait et fluide. On a fait une enquête en tout début d'année sur comment le handicap est perçu au sein de Bluesoft. Donc c'était une enquête à destination de tous les collaborateurs. Et avec les données qui sont ressorties de cette enquête, il y a une formation de sensibilisation qui a été proposée donc aux managers et aux recruteurs notamment, pour justement nous aider à aborder ce sujet avec les collaborateurs déjà en place chez nous ou bien les personnes que l'on recrute. Voilà, parce que c'est vrai que ce sont des sujets difficiles à aborder. Il y a aussi toute la politique de discrimination, hein, finalement, qui tourne autour de ça et des choses qui peuvent être mal perçues. Donc, on nous donne vraiment des clés pour pouvoir aborder ça de manière simple et surtout poser les bonnes questions. Aujourd'hui, quand une personne est en situation de handicap, on n'attend pas d'elle qu'elle nous dise « ça fait depuis quand ? Et tu as quoi comme maladie ?» Non, ce qu'on attend, c'est de savoir aujourd'hui, concrètement, comment on peut adapter ton poste, comment on peut t'aider dans ta situation. Voilà.
In fine, qu'est-ce qu'un recrutement réussi ? À quel moment le recruteur peut-il se féliciter de son travail ? Est-ce quand il reçoit une réponse positive à ses mails ? Quand les équipes en place sont satisfaites de nouveaux entrants ? Quand le candidat prend enfin ses marques et qu'il s'intègre pleinement ?
Un recrutement réussi, c'est une personne qui va se plaire chez nous, va faire son métier avec plaisir, va pouvoir évoluer dans la continuité de ce qu'elle souhaite et va pas avoir envie d'aller à la concurrence.
Merci d'avoir écouté le podcast Chronique de Talents Bleus du groupe Bluesoft. Le prochain épisode sera consacré à Grégory, développeur full stack. Abonnez-vous et restez à l'écoute. À très bientôt. Et surtout, adoptez le courant bleu.